l'émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Comme nous sommes vendredi, ce sera forcément la libre antenne, l'occasion pour vous tous de nous rejoindre ici à Paris pour commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué dans l'actualité française, africaine, internationale. Parmi les sujets que nous recevons depuis 2-3 jours pour cette libre antenne, vous êtes nombreux à nous appeler du Bénin, nombreux à être en colère après l'augmentation des tarifs pour vous connecter sur les réseaux sociaux. Encore et toujours beaucoup de réactions sur la République démocratique du Congo avec l'arrivée attendue prochainement des machines à voter électroniques. On parlera football, là aussi les débuts poussifs, pour dire clairement les choses, les débuts poussifs du PSG en Ligue des Champions ne vous ont pas laissé indifférents. Voilà quelques-uns des sujets que nous traiterons dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts ici à RFI vous répondent en direct. Et nous avons d'ailleurs, pour commencer, contacté notre correspondant permanent à Moscou. Bonjour Daniel Valot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous avons reçu des questions après le crash d'un avion militaire russe en Syrie. Et c'est Bellamy, justement, qui nous appelle de Lubumbashi, qui vous pose ces questions. Bonjour Bellamy.
Bonjour Juan. Bonjour RFI.
Nous vous écoutons. Bonjour. Bienvenue.
Juan, j'ai des questions concernant un avion russe abattu en Syrie. Mmh. L'avion a été abattu par l'armée syrienne. Mais pourquoi la Russie accuse-t-elle Israël ? Ça, c'est la première.
Oui.
Deuxième, quelles sont les circonstances de cet incident ?
Oui, on va essayer d'y voir plus clair, effectivement, Daniel Valot. C'est vrai qu'il s'agit du plus grave incident entre alliés russes et syriens depuis que Moscou intervient militairement en Syrie pour épauler le régime de Bachar al-Assad. Alors, Daniel, nous sommes lundi soir. La défense antiaérienne syrienne vise, par erreur, un avion militaire russe au-dessus de la Méditerranée. Les 15 militaires qui sont à bord meurent. Et la première réaction de Moscou a été d'accuser Israël. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, alors effectivement, c'est la première réaction de Moscou. C'est en fait la réaction du ministère de la Défense qui a accusé Israël dans un premier temps. Ensuite, Vladimir Poutine a plutôt calmé le jeu et refusé d'incriminer directement l'armée israélienne. Mais revenons tout de même sur ces accusations formulées par l'armée russe le lendemain de l'incident. Selon cette première version, les pilotes israéliens qui effectuaient un raid en Syrie se seraient cachés délibérément derrière un avion russe pour induire en erreur la défense aérienne syrienne qui aurait ensuite donc abattu cet appareil. Dans ses premières déclarations, l'armée russe parlait d'une provocation délibérée, ce sont des termes tout de même assez forts, de l'armée israélienne et accusait cette armée de ne pas avoir respecté le système de déconfliction qui a été mis en place en 2015 entre les deux pays, autrement dit le système d'alerte qui permet justement d'éviter ce genre d'incident. Alors cette version des faits, elle a bien sûr été démentie par Israël qui a d'ailleurs envoyé hier à Moscou une délégation militaire pour présenter sa propre version des faits et pour pointer du doigt, par conséquent, non pas sa responsabilité, mais celle de la défense antiaérienne syrienne.
Ah oui, Israël qui, on le voit bien, veut désamorcer les tensions avec Moscou. Bellamy nous demandait de revenir sur les circonstances de cet incident. Est-ce que vous avez des informations ?
Alors écoutez, il y a la chronologie d'abord, hein. Donc ce raid aérien d'Israël contre des installations militaires syriennes dans la banlieue de Latakié. Ce raid a lieu dans la soirée de lundi. À la suite du raid, les batteries missiles syriennes de missiles S-200 se mettent en action et c'est à ce moment-là que l'avion russe est touché. Voilà pour la chronologie. En ce qui concerne le contexte, il y a ces raids aériens qui sont effectués régulièrement par l'armée israélienne sur le territoire syrien. Des raids qui ont pour objectif, c'est ce que dit en tout cas Israël, d'empêcher des livraisons d'armes au Hezbollah. Lundi soir, le raid effectué par l'aviation israélienne s'est déroulé dans une zone extrêmement sensible, la région de Latakié. Très sensible. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est dans cette région que se trouve la principale base aérienne de l'armée russe en Syrie. Et c'est justement parce que l'avion de surveillance russe retournait sur cette base qu'il a été pris sous le feu syrien.
Oui, de toute évidence, cette affaire pose beaucoup de questions, et notamment les défaillances de la défense anti-aérienne syrienne, qui a été incapable de faire la différence entre un chasseur israélien et un avion de reconnaissance russe. Merci beaucoup, Daniel Vallaud. Bel ami, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, merci, Johan.
Si
merci.
C'est plus clair, tant mieux
merci
pour
aussi à Daniel Vallaud.
Notre correspondant permanent à Moscou, que je remercie également. 10h16 à Paris, vos questions, vous nous appelez, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70. Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Conakry, en Guinée.
Absolument.
Absolument. Vous avez des questions sur la plainte déposée par une ONG guinéenne contre un groupe minier brésilien.
Exact, Juan. Une ONG nommée Même Droit pour Tous a porté plainte contre la société brésilienne Vale. Et selon elle, la société Vale aurait collaboré avec les forces de défense et de sécurité dans une violente répression à Bogota qui avait coûté la vie à 6 personnes. Juan, mes questions sont les suivantes.
Oui.
En sur quoi l'ONG s'est basée pour affirmer qu'il y a des liens entre les forces de défense et de sécurité et la société Vale?
Alors, on va déjà répondre, Benjamin, si vous le permettez, à cette première question avec Carole Valade, qui est l'un de nos correspondants à Conakry. Bonjour, Carole.
Bonjour Juan, bonjour Benjamin.
On va revenir sur les faits, sur cette affaire qui remonte à août 2012. À ce moment, et on l'a compris à travers la question de Benjamin, les relations sont particulièrement tendues entre les habitants de Zogota, qui est une localité de Guinée forestière, et cette entreprise brésilienne Vale.
Oui, tout à fait. En fait, il lui reproche de ne pas assez employer de travailleurs locaux, d'avoir pollué le site et aussi d'avoir détruit des lieux sacrés. À ce moment, il y a des manifestations de femmes, les forces de sécurité sont sur le qui-vive, les villageois barrent les routes et le 2 août, les locaux de Vale sont vandalisés par les habitants. Une délégation ministérielle arrive et le lendemain, les forces de l'ordre interviennent dans la nuit et le bilan, comme l'a dit Benjamin, est donc de 6 morts, plusieurs blessés et des cas incendiés.
Alors concrètement, quel rôle a ou aurait joué l'entreprise dans cette affaire?
Selon l'ONG Même Droit pour Tous, Vale aurait fourni un soutien logistique aux forces de l'ordre, plus précisément 4 véhicules et 2000 litres de carburant. L'intervention aurait également été planifiée depuis l'hôtel qui servait de base à la société, donc les avocats considèrent en fait qu'il y a une forme de complicité et ils s'appuient pour ça sur des témoignages, des procès-verbaux d'audition des victimes, victimes qui pour la plupart disent avoir vu les pick-up blancs de la société Vale transporter des militaires.
Voilà, à suivre donc. Benjamin, vous avez une autre question?
Oui, ma deuxième question était, quelles sont les différentes réactions suite à cette plainte?
Les différentes réactions?
Oui.
C'est bien ça. Les réactions,
ça, en fait,
Carole Valade. Ouais.
Pas tellement en fait. Hein. D'abord sollicitée par RFI, la société Vale s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle se défend d'avoir entrepris ou soutenu tout acte de violence. Elle affirme que ses employés ont été évacués dans l'ordre et qu'elle a simplement signalé l'incident aux autorités. Mais cette nouvelle plainte, en fait, elle a fait remonter à la surface un rapport des Nations Unies qui est particulièrement intéressant et qui, semble-t-il, n'avait pas vraiment été publié jusque-là. Ce rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée, eh bien, il confirme en partie les accusations de l'ONG. On y trouve les photos des corps des victimes, le récit des violences, des actes de maltraitance et surtout des témoignages, dont celui du directeur de la sécurité et de la sûreté de la région de Zérékoré, selon qui, eh bien, c'est la délégation ministérielle qui a ordonné l'opération et c'est le ministre des Mines qui a demandé à Vale de ravitailler les militaires en carburant. Un responsable de la société confirme que les voitures ont été mises à disposition des ministres, mais il dit qu'elles n'ont participé aux attaques. Enfin, on y apprend que l'entreprise a offert 900 $ lors des funérailles des victimes. Et selon nos sources, eh bien, ce rapport, qui conclut à plusieurs violations des droits de l'homme, avait été remis à l'époque aux autorités guinéennes.
Alors, Carole Valade, le réseau satellite n'est pas très bon. Peut-être pourriez-vous basculer sur le réseau téléphone, peut-être, et je l'espère que la ligne sera un peu meilleure, juste pour savoir si il y a eu du côté des autorités guinéennes des réactions à cette nouvelle plainte.
Pour l'instant, non, pas de réaction. Hein. Et c'est bien ce qui inquiète les avocats de l'ONG. Ils sont toujours sans nouvelles du parquet de Zérékoré et craignent que cette deuxième plainte connaisse finalement le même sort que la première qui avait été déposée contre les forces de sécurité juste après les faits. Pour rappel, hein, 2 jours après le drame, la présidence avait sorti un communiqué pour dire que les coupables seraient punis. Un comité de crise a été mis en place, une enquête ouverte. qui, au responsable des forces de défense, était visé, mais 3 ans plus tard, en 2015, eh bien, le procureur a décidé de renvoyer le procès inédit parce qu'il n'est simplement pas parvenu à les faire comparaître. Selon une source, la justice s'est ici heurtée à la hiérarchie militaire et depuis 3 ans, eh bien, la procédure est au point mort et c'est pour ça que les avocats veulent maintenant attaquer l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO pour déni de justice, une plainte qui devrait être déposée d'ici la fin de l'année.
Voilà, c'était ce qu'ont annoncé effectivement les membres de cette ONG récemment lors d'une conférence de presse à Conakry. Benjamin, a-t-on répondu à vos questions ?
Ok, merci beaucoup.
Merci. Et j'espère, Benjamin, vous voir, comme tous ceux qui nous écoutent à Conakry, vous voir mercredi et jeudi prochain au Centre culturel franco-guinéen, puisque nous y serons sur place pour l'enregistrement de plusieurs émissions. Je vous donne le programme rapidement. Mercredi à 13h, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, nous allons retracer ensemble l'histoire du pays, voir finalement ce qu'il reste aujourd'hui, en 2018, de l'euphorie de 1958. Ensuite, aux alentours de 15h, nous parlerons des massacres du 28 septembre 2009 avec cette question récurrente: à quand un procès? Nous verrons comment ces événements douloureux ont imprégné la société guinéenne. Et le lendemain, le jeudi donc, à 13h, toujours au Centre culturel franco-guinéen, nous donnerons la parole exclusivement à la jeunesse guinéenne. Nous verrons comment ces jeunes perçoivent leur pays 60 ans après l'indépendance. Et le ministre de la jeunesse, Mouktar Diallo, sera avec moi. Et puisque nous parlons de Conakry, sachez que vous êtes tous invités, tous conviés, le mardi 25 septembre au Palais du Peuple à partir de 16h. J'aurai l'honneur, le privilège, le bonheur de présenter un livre, Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée. C'est un ouvrage réalisé par des journalistes de RFI, des défenseurs des droits de l'homme de la FIDH. Il y a beaucoup d'universitaires qui ont collaboré à ce livre qui a demandé des mois et des mois d'enquête. La présentation de ce livre sera donc ouverte à tous au Palais du Peuple mardi à partir de 16h. Voilà qui est dit. Bonjour Fresnel.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, vous nous appelez de Parakou au Bénin et vous avez des questions sur la restitution du patrimoine culturel africain. C'était, rappelez-vous, l'un des engagements pris par le président Macron il y a un peu moins d'un an à Ouagadougou.
Oui, le président Benoît Patrice Talon réclame à la France le patrimoine culturel. J'aimerais savoir quelles sont les œuvres qui constituent ce patrimoine-là.
Ah, bonne question, d'autant que le président béninois a créé il y a quelques jours un comité chargé de travailler avec l'équipe française, l'équipe mise en place par Emmanuel Macron. Alors pour vous répondre, Corinne Herschkowitsch, bonjour.
Bonjour.
Avocate spécialisée dans le monde de l'art, vous avez publié aux éditions Azan La restitution des œuvres d'art, solutions et impasses. Concrètement, lorsqu'on parle d'œuvres d'art s'agissant du Bénin, de quoi parle-t-on ?
Alors on parle essentiellement, en tout cas c'est ce que contient la demande du président Patrice Talon qui a été formulée une première fois en juillet 2016 auprès de la France. On parle de tous ces trônes royaux, des portes sacrées du palais d'Abomey, des statues anthropomorphes, etc., qui ont été emportées par le général Dodds au moment, en 1892, au moment où le général Dodds, qui représente la France et qui mène la guerre contre le roi Béhanzin, roi d'Abomey, ressort victorieux de cette bataille et pille le palais d'Abomey comme on le faisait à l'époque, comme les vainqueurs avaient l'habitude de le faire. C'était une tradition.
Mais a-t-on une idée, Corinne Herschkowitsch, de la quantité d'œuvres d'art béninoises concernées justement par cette demande?
Alors, c'est difficile, mais le Bénin a estimé que la France conservait environ 5000 pièces au musée du Quai Branly et dans les collections privées. Donc, pour l'instant, ce sont des demandes d'État à État, donc ça concerne essentiellement les collections publiques, la collection du Quai Branly en particulier. Mais ces œuvres qui ont été emportées par le général Dodds et déposées à son retour en France dans un musée, représente environ 5000 pièces.
Oui, il y a des collections privées, par exemple, qui détiennent ces œuvres d'art. Ça risque d'être compliqué, non, de les restituer au Bénin?
Ça va être compliqué, effectivement, mais le président Macron a marqué un point très fort dans son discours de Ouagadougou en novembre 2017. En novembre 2017. Donc, Maintenant, il va falloir travailler pour trouver des solutions. Comme vous l'avez dit, non seulement de son côté, le président Macron a formé une équipe pour réfléchir aux conditions de cette restitution qu'il a annoncée à Ouagadougou, mais le président du Bénin a lui-même créé un comité qui est chargé de travailler avec l'équipe française pour envisager les conditions dans lesquelles ces pièces, alors peut-être pas toutes, mais les plus importantes pour le Bénin, pourront retourner sur place.
Corinne Herskovitch, merci d'avoir été avec nous, avocate spécialisée dans le monde de l'art. Freshnel, bonne journée à Paracou. Alejandro Valente, bonjour.
Juan, bonjour.
Bienvenue, on va terminer cette première partie avec vous. Je rappelle que vous êtes le chef du service des sports. On a reçu une question après le carton rouge contre Ronaldo. C'était mardi ?
C'était mercredi.
Mercredi,
dernier,
exactement, oui. À Valence. Ronaldo expulsé du terrain à la demi-heure de jeu. Bonjour Alidor.
Bonjour Juan Gomez, bonjour Alejandro Valente.
Vous êtes à Kinshasa, nous vous écoutons.
Tout à fait. Dans un match de football de Ligue des Champions, bien sûr, l'équipe tenant du Ballon d'Or a été expulsé du terrain par un carton rouge à 30 minutes seulement du match. Du coup, je voudrais savoir, la décision de l'arbitre est-elle justifiée?
Oui, puisque ça fait polémique. C'est bien Alidor, ça fait polémique. Alejandro Valente, la presse italienne est vent debout, hein.
Oui, polémique. Je pense que la plupart des gens, et moi parmi eux, sommes d'accord pour estimer que ce carton rouge est très sévère.
Ah oui, voilà, parce qu'on rappelle les faits. Ronaldo, il est pris, je crois,
Oui, il y a un accrochage avec Murillo. Alors Murillo s'est jeté au sol. Ronaldo estime qu'il fait du cinéma, donc il lui reproche ça. Il le regarde pas très amicalement, il va vers lui. On sent qu'il va se passer quelque chose. Finalement, il lui met la main sur la tête. Apparemment, il tire un peu ses cheveux.
On a l'impression qu'il veut tirer les cheveux, effectivement, voilà. De Murillo.
Donc, c'est sûr que c'est pas bien. Et un carton jaune, à mon avis, aurait suffi.
Oui.
Le problème avec l'UEFA, c'est qu'il n'y a pas l'assistance d'arbitrage vidéo. Donc l'arbitre n'a que le témoignage d'un de ses juges assistants qui lui dit que Ronaldo a une attitude agressive. Il ne peut pas révisionner les images. Donc il prend la décision qu'il estime appropriée dans un cas comme ça. Il sort le carton rouge direct. C'est le problème. Plus que la polémique sur le comportement de Ronaldo, c'est l'absence de cette aide à l'arbitrage vidéo et l'inutilité de ces arbitres des surfaces que l'UEFA s'obstine à continuer à déployer.
Alidor, vous avez vu le match, vous ?
Tout à fait.
Et alors, ce carton rouge, il vous semble justifié ou pas ?
Alors, c'est un peu sévère, à mon avis.
Ah oui, trop sévère, effectivement. Vous aviez une autre question ?
Tout à fait. Après cela, quels effets cela peut avoir sur son avenir, celui de son club et sur la Ligue des Champions notamment? Quels sont les changements prévus par l'équipe ou le club pour les matchs qui viennent?
Alors, beaucoup de questions. Il nous reste une minute, Alejandro Valente. Vous regardez la pendule. Allez. Juste savoir, combien de matchs de suspension risque Ronaldo?
Alors, il y a un match automatique. Ça, il n'y a aucune possibilité d'y déroger. L'UEFA n'a pas la possibilité d'annuler un carton rouge. Donc évidemment, il ne sera pas face aux Young Boys de Berne pour le 2 octobre, prochain rendez-vous de la Juventus. L'enjeu de la réunion de la commission des disciplines jeudi prochain, ce sera surtout d'essayer d'éviter pour la Juventus que Ronaldo soit suspendu 2 voire 3 matchs.
Voire même 4, j'ai pu lire dans la presse.
Oui, je pense que 2 ou 3, c'est plutôt le tarif qu'il risquera. Et disons qu'il a un peu aggravé son cas en mettant longtemps à quitter le terrain après la sanction.
Il pleurait, Ronaldo.
Voilà. Mais du coup, il a retardé la reprise du match et ça peut être un facteur aggravant. Après, tout dépendra beaucoup du rapport de l'arbitre. Est-ce que l'arbitre va dénoncer un comportement agressif de la part de Ronaldo ou pas? Il y a de fortes chances quand même pour qu'au moins il prenne un deuxième match, ce qui le priverait du déplacement à Old Trafford.
On en saura plus donc jeudi prochain. Ça obligera forcément l'entraîneur à revoir la stratégie.
Disons que, vous savez, le recrutement de Ronaldo était plus un grand coup marketing. Ça n'a pas empêché la Juventus de gagner ses matchs, l'absence de Cristiano Ronaldo. Donc, je pense que la Juventus a suffisamment de ressources pour y faire face. Ça nuit encore, surtout à Ronaldo, qui espère encore remporter un nouveau ballon d'or et qui risque d'être absent alors que les jurés vont voter.
Merci beaucoup Alejandro Valente. Et on retrouve évidemment toute l'équipe de Radio Foot International cet après-midi pour le Café des Sports, 10h30 à Paris.